Il est devenu un sujet d'actualité, une nécessité, un élément incontournable. Vous avez sûrement entendu parler des ODD, Objectifs de Développement Durable. D'ailleurs, 193 pays se sont fixés d'atteindre 17 objectifs d'ici 2030. Sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Maroc est sur cette dynamique à la fois environnementale et économique. Notion qui définit le besoin de transition et de changement dont a besoin notre planète et ses habitants pour vivre dans un monde plus équitable, en bonne santé et en respectant l'environnement. Quel impact géopolitique, stratégique, économique et même social le développement durable a sur notre quotidien et sur l'évolution du monde.
Mehdi 1, Ababacar Tonkara, le podcast de la durabilité.
Des rapports scientifiques récents ont montré que les systèmes environnementaux se détériorent au niveau mondial. Depuis des années, en raison des activités humaines non durables, ce qui a donc contribué au déclin de la biodiversité et à l'exacerbation de la pollution et des effets du changement climatique, menaçant ainsi les fondements environnementaux de nos sociétés et donc notre bien-être économique et social. Et face à la conjoncture spéciale que nous vivons aujourd'hui et ses répercussions sociales, sanitaires et économiques, notamment les perturbations au niveau des chaînes de production et de commercialisation des ressources naturelles. Pour le cas de l'Afrique, le développement durable est donc confronté à des défis liés à la consommation et à la production. Dans le cas du Maroc, le Royaume s'est engagé depuis plus des décennies également dans une politique volontariste de développement durable à travers de nombreuses réformes et programmes opérationnels en vue d'asseoir des bases solides de développement économique, d'améliorer la résilience sociale et environnementale du pays et de promouvoir des modèles de production performants et durables. Qui parle donc de développement durable et aussi de durabilité ne peut omettre tous les maillons de la chaîne industrie, énergie, climat, économique, entre autres. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre troisième numéro sur la durabilité. Et pour mieux appréhender tous les contours socio-économiques de ce sujet, notamment dans le cadre de l'environnement, voire de l'urbanisme, nous sommes avec, bien entendu, Samira Ben Ali, qui est aujourd'hui cofondatrice de la structure de la Fédération Maram et aussi cofondatrice de Green Tech, présidente plutôt de la Fédération Maram et cofondatrice de Green Tech Touch. Bonjour à vous.
Bonjour.
Qui parle donc de durabilité, parle également de croissance économique, inclusive et sociale. Comment peut-elle bénéficier à la population ?
Alors, avant toute chose, je voulais vous remercier pour cette opportunité concernant cet échange qui est très important à l'heure actuelle. Donc, pour cette première question, effectivement, pour que cette approche bénéficie à la population, il est essentiel de mettre en place des politiques et des mesures qui favorisent un accès qui soit équitable, de manière à ce qu'on puisse avoir des opportunités économiques. Et pour que cela puisse se faire, il faut tout simplement permettre l'investissement dans l'éducation, la formation professionnelle, renforcer la compétence des individus. Il faut bien entendu, et c'est ce qu'on fait de plus en plus à l'échelle internationale, c'est l'encouragement à l'entrepreneuriat et à la création d'emplois. Promouvoir l'inclusion financière, garantir des conditions de travail qui soient décentes. Il faut également aussi veiller, et ça c'est très important, à ce que les bénéfices de la croissance économique soient bien répartis de manière équitable, en réduisant les inégalités et en luttant contre la pauvreté. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a un certain nombre de dispositifs qui sont placés à l'échelle mondiale, avec des fonds d'appui, des programmes d'appui, etc. Néanmoins, on n'arrive pas à réduire ces inégalités et à lutter contre cette pauvreté. D'où l'importance de faire une bonne répartition et d'avoir une bonne gestion de suivi par rapport à cela. Voilà.
Et donc aussi, pour le Marocain, Madame Ben Ali, ou l'Africain de manière générale, qui se trouve dans les coins les plus reculés de sa localité, comment peut-il contribuer à cette croissance économique ?
Alors, effectivement, c'est une question qui est très importante, et notamment en particulier pour notre continent africain. On a beaucoup de pays où la population est assez reculée, au fin fond des zones, que ce soit montagneuses ou tout simplement agricoles. Et là, il faut permettre effectivement à ces personnes de contribuer à une croissance économique durable. Parce qu'aujourd'hui, on parle de croissance économique durable dans le sens où il faut absolument tenir en compte du facteur crise climatique. Donc, il est crucial de leur offrir des opportunités d'accès aussi. Mais ce sont des opportunités d'accès à l'information, de manière à leur renforcer les compétences, mais combiné à ce renforcement des compétences, il faut leur permettre aussi de mettre à disposition des dispositifs. Et comment on fait cela ? Tout passe par l'information, tout passe par la donnée et les moyens de communication pour ces personnes-là qui se trouvent dans des zones reculées. Aussi bien pour contribuer à la croissance économique, mais aussi pour faire face à la crise climatique et préserver cette croissance économique sur le long terme. Donc c'est pour cela qu'il est important de mettre en place des programmes et des informations qui soient accessibles, adaptées aux besoins locaux, du soutien localement et bien sûr des infrastructures qui soient donc des infrastructures de transport, de communication améliorées, qui tiennent compte de ces nouveaux paramètres de crise pour faciliter les échanges. Voilà.
Et dans le cas donc plus précis, par exemple pour le cultivateur ou l'éleveur, comment peut-il assurer sa sécurité alimentaire, celle de sa production et également son gagne-pain, bien sûr.
Alors, pour favoriser la sécurité alimentaire, effectivement, ça c'est un point qui concerne tout le monde à l'échelle mondiale. Il faut effectivement s'assurer déjà de l'irrigation. L'eau est le facteur principal, crucial pour ces agriculteurs et ces éleveurs qui ont besoin de mettre en place des politiques agricoles. Mais on ne peut absolument pas mettre de politique agricole et des pratiques si on n'a pas la source principale qui est l'eau. Et donc ça, il y a des programmes d'appui technique et financier qui sont en train de se mettre en cours, qui sont en train de se mettre en place. Mais pour assurer que ces programmes d'appui technique et financier soient bien établis sur le terrain, il faut bien sûr conserver ressources, il faut permettre la promotion des diversifications des cultures et il faut permettre aussi un soutien, une espèce de task force locale qui va permettre d'aider ces agriculteurs à permettre ce maintien, cette préservation de ces ressources comme l'eau importante, parce qu'ils n'ont pas forcément la connaissance locale. Il y a des gestes quotidiens sur lesquels ils doivent pouvoir s'assimiler et apprendre. Il y a des gestes qui doivent être aussi acquis dans le cadre de la production de leurs produits. Il y a des gestes qui doivent être aussi acquis dans le cadre d'inondations, par exemple, parce que l'eau aussi peut être un problème. Dans le sens où si on a trop d'irrigation, on se retrouve dans le cas d'inondations, ou si on n'en a pas du tout de sécheresse. Et là aussi, il y a des dispositifs de l'accompagnement local qui doivent être mis en place, ou tout du moins par les canaux de communication qui doivent être disponibles pour ces personnes-là.
Autre élément essentiel, Madame Ben Ali, le défi de l'Afrique, comme l'a rappelé le Maroc lors de la COP28, est que le continent joue les premiers rôles pour résoudre les problèmes socio-économiques communs. Pour vous, comment arriver, bien entendu, à cette situation ?
Alors, dans le cadre de notre fonction, alors, comme vous l'avez expliqué lors de l'introduction, j'ai deux casquettes. J'ai une casquette en tant que présidente d'une fédération qui est basée à Rabat, mais qui fait partie d'une organisation mondiale. Donc, ça signifie qu'en fait, sur les 45 fédérations, il existe déjà des coopérations sur des problématiques qu'on rencontre actuellement à l'échelle internationale, notamment les séismes, les inondations, la préservation des infrastructures stratégiques, que ce soit en milieu agriculture, industriel, etc. Donc, en fait, nous, notre métier principal, c'est l'accompagnement des écosystèmes à l'échelle internationale, de la gestion des actifs durables. Un actif aujourd'hui, c'est de la donnée, c'est un produit, c'est une infrastructure stratégique. Et donc, en fait, tout le monde est concerné, aussi bien l'industriel, l'agriculture, les institutionnels, les organismes aussi de coopération. Et pour pouvoir assurer et pallier à la résolution des problèmes socio-économiques, il faut déjà essayer de comprendre comment on va gérer ces principaux actifs et comment on va pouvoir investir autour de cela avec l'innovation et la technologie. Donc il faut bien sûr mobiliser les ressources financières, certes, mais il faut également mobiliser les ressources humaines, les capacités. Parce que si on prend des exemples concrets, on a des pays aujourd'hui en Afrique qui l'ont compris et qui ont réussi. Il y a des pays, par exemple, comme le Rwanda, le Botswana, le Ghana, qui ont compris ces choses-là et qui arrivent à pouvoir générer des choses concrètes parce qu'ils ont mobilisé la préservation des ressources naturelles, les infrastructures autour de ces ressources naturelles, en ciblant les bonnes coopérations. Donc d'abord, on essaye de comprendre comment on va préserver, on essaye de comprendre ce qu'on veut préserver, et ensuite on va cibler les bonnes coopérations régionales, intercontinentales, et ensuite au-delà. C'est comme ça qu'on doit fonctionner. Et puis, seulement après, on arrivera justement à cette deuxième phase qui va être de renforcer les capacités qu'on a à l'échelle africaine. Et il y a des pays aujourd'hui en Afrique qui arrivent à le faire. Et à l'inverse, on a des pays au-delà de l'Afrique, comme en Europe, qui ont eu des moyens financiers, mais qui se sont retrouvés quand même avec des difficultés, comme la Grèce, l'Italie ou l'Espagne, mais maintenant qui rebondit, parce qu'il ne suffit pas d'avoir des moyens financiers et des coopérations, il faut aussi mobiliser localement des ressources humaines qui sont capables de comprendre ce que l'on doit préserver.
Et vous venez donc de le souligner, donc, par rapport à cela, cette durabilité socio-économique est-elle possible entre l'Afrique et les autres continents, selon vous ?
Oui, bien sûr. Nous avons eu dernièrement une manifestation qui a été extrêmement importante. Donc la COP28, c'était l'occasion pour les pays africains de pouvoir se rencontrer avec les acteurs des pays européens, des pays américains et des autres continents, par exemple, pour pouvoir faire des discussions, de mettre en place des collaborations étroites, des coopérations mutuelles qui doivent être bénéfiques et ciblées, bien sûr, avec des partenariats entre les pays africains et les autres continents qui peuvent être sous différentes formes. Par exemple, le commerce, les investissements, les transferts de technologies, le partage de connaissances, l'échange d'expertise. C'est aussi important de promouvoir des relations qui soient dans l'équité et qui soient équilibrées aussi, qui doivent tenir compte des besoins et des intérêts de toutes les parties prenantes. Parce qu'il faut bien sûr assurer le respect de ces principes de durabilité et de responsabilité sociale. Voilà. Et puis enfin, il faut pouvoir créer des opportunités économiques, et ça existe déjà, notamment aussi la promotion du développement durable à l'échelle mondiale par justement ces opportunités économiques qui sont échangées et qui vont constituer des partenariats, des collaborations, et à partir de là, on va aller rechercher des fonds d'appui, de soutien, etc.
Et bien entendu, tout ça autour de la durabilité. Merci encore à vous, Samira Ben Ali. Je rappelle que vous êtes présidente de la Fédération Maram et aussi cofondatrice de Green Tech Touch.
Merci beaucoup.
Merci à vous aussi, amis auditeurs. Rendez-vous est pris dans la durabilité, dans votre prochain numéro, sur la question essentielle qui nous concerne tous, la durabilité dans le monde.